Bernard Laponche est ingénieur de l'École Polytechnique de Paris depuis 1957. Docteur S sciences, physique des réacteurs nucléaires et docteur en économie de l'énergie, prospective énergétique, il participe à l'élaboration des premières centrales nucléaires françaises en tant qu'ingénieur au Commissariat à l'énergie atomique. Et il est responsable syndical à la CFDT dans les années 1970. Il découvre alors les conditions de travail des salariés de l'usine des retraitements de la Hague, qu'il juge moralement inacceptable. Il est ensuite directeur des programmes, puis directeur général de l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie, de 1982 à 1987. En 1988, Bernard Laponche crée avec Florence Rosenstiel le Bureau d'études international Conseil Énergie. Ce bureau d'études est consacré aux études et activités de conseil en politique de l'énergie et de maîtrise de l'énergie. En 1998 et 1999, il est conseiller technique de Dominique Voynet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement pour les questions énergétiques et la sûreté nucléaire. Depuis l'an 2000, il exerce des activités de consultant dans les pays de l'Europe et du bassin méditerranéen. Notamment pour le compte de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, et également de l'Agence française de développement. En tant que consultant, il travaille aussi pour la Russie et la Chine. En 2011, il publie plusieurs tribunes sur le nucléaire et la probabilité d'un accident majeur en France et dans l'Union européenne. Il mène alors une vie militante associative. Notamment en 2017, il s'oppose au projet de stockage de déchets nucléaires à grande profondeur au profit d'une solution temporaire de stockage souterrain à environ 50 mètres de profondeur qui permettrait de poursuivre les recherches sur la transmutation. Mais cette solution n'est acceptée dans aucun pays du monde par les autorités de contrôle du secteur nucléaire et est fortement combattue par de nombreux écologistes qui ne croient pas à la viabilité de ces recherches. Tandis que les pays qui l'ont étudié l'ont soit écarté, tel que le Royaume-Uni, soit mis en œuvre comme solution transitoire. C'est le cas de la Suisse, la Suède, la Finlande et le Canada. Nous le retrouvons lors d'une interview enregistrée à l'occasion du procès des malfaiteurs de Bure. Nous sommes toutes des malfaiteurs.
Alors, Monsieur Laponche, vous êtes scientifique depuis beaucoup d'années et expert de la thématique de l'enfouissement nucléaire.
La thématique du nucléaire en général.
Du coup, en ce moment, en Allemagne, se déroule un débat public et toute une procédure pour réouvrir le débat depuis que, à l'automne dernier, Gorleben a été abandonné après 43 ans de lutte. Du coup, c'était la mine saline dans le Nord qui n'est pas appropriée apparemment selon les scientifiques. Même dans la première phase de recherche, ils ont abandonné ça. Est-ce que vous pouvez me dire quelques mots sur la thématique de l'enfouissement en couche géologique profonde? C'est quoi les principales problématiques qu'il faut respecter si on étudie de tels projets?
Oui, vous voyez, c'est bien posé parce que il y a deux types de discussions. Bon, il y a une discussion générale sur le nucléaire, et l'Allemagne a décidé de sortir, et je pense que ça va se passer dans le monde entier, mais il y a de toute façon des déchets. Donc la question, qu'est-ce qu'on fait avec ces déchets? Alors il y a deux, pour le moment, sur la table, il y a l'enfouissement géologique, qui est très favorable pour les gens du nucléaire, parce qu'ils disent, on va mettre les déchets au fond, du coup il n'y a plus de risque, tout va bien. Mais c'est une solution qui n'a encore jamais été vraiment réalisée, même à titre de prototype. Et donc il y a énormément de questions, soit sur le fait qu'on puisse décider différemment, si jamais ça se passait comme à As, par exemple, c'est-à-dire que c'est un échec. Et donc l'alternative, c'est de dire, bah, écoutez, il faut poursuivre la recherche. Moi, c'est la première fois qu'on me dit que la recherche ne peut rien trouver. Bon, aucun scientifique ne peut considérer qu'elle peut rien trouver, puisque la science atomique, elle a à peu près mon âge, puisqu'on a découvert le neutron en 1938. Donc, c'est vieux, mais pas si vieux que ça. Donc, si on dit, écoutez, on va mettre les déchets dans des endroits bien sécurisés, ce qu'on appelle le stockage à sec, et on demande aux physiciens de tous les pays, enfin vraiment, puisque ça intéresse tout le monde, tous les gens qui ont du nucléaire, ils ont le problème des déchets. Donc leur dire, écoutez, mettez au point des programmes de recherche, d'autant plus qu'il y a déjà l'expérience en Belgique avec le projet MIRA de transmutation. Le prix Nobel français Mourou a dit qu'avec le laser, il pouvait améliorer ce procédé. Donc il faut pousser la recherche plutôt que de se précipiter vers une solution qui est soi-disant définitive, mais qu'on ne sait pas comment les choses vont évoluer. Donc on fait un pari qui est un pari très dangereux. Donc moi je pense qu'il ne faut pas faire le stockage géologique, mais par contre, il ne faut pas non plus laisser les déchets sans rien faire, parce que c'est trop dangereux. Donc il faut mobiliser la recherche en France, en Allemagne, tous les gens qui ont du nucléaire, c'est le même problème. Donc ils peuvent faire des recherches avec le CERN, les instituts de recherche. Enfin, il y a quand même énormément de scientifiques sur le nucléaire qui peuvent chercher soit l'amélioration de la transmutation, qui est compliquée, soit des nouvelles voies qu'on ne connaît pas aujourd'hui. C'est impossible de dire qu'on ne trouvera jamais une solution, ça n'existe pas.
Vous pouvez me dire plus sur cette thématique de transmutation qui se fait du coup en Belgique, le MURAT ?
En laboratoire, ça se fait dans beaucoup d'endroits. Ça consiste à séparer dans les déchets, de séparer les plus dangereux sur le très long terme, et de les bombarder de façon à diminuer la radioactivité, ce qu'on appelle la transmutation. C'est assez compliqué. On sait, par exemple, séparer le premier, l'américium. On doit pouvoir séparer un autre, le neptunium. C'est difficile, mais ça existe. Ça existe. Mais on dit, oui, faire ça à un niveau industriel, c'est très cher, parce qu'on retombe aussi sur des questions économiques. Hein. Mais ça existe. La transmutation, ça existe. Est-ce qu'on peut l'améliorer ? Et le projet MIRA en Belgique va être construit pour faire une vraie expérimentation. Et en plus, le prix Nobel de physique français dit qu'avec le laser, il peut améliorer ce procédé. Et que vraiment, il ne dit pas du tout que c'est formidable, il dit « je peux l'améliorer ». Donc qu'on fasse des expériences avec ces procédés et qu'on voit ce que ça donne, au lieu de prendre une solution définitive qui n'est pas bonne. Tu vois ? Donc c'est ça la discussion.
Actuellement, il y a de nouveaux mouvements écologistes qui portent beaucoup sur la thématique du changement climatique. C'est quand même le thème qui est le plus discuté avec les émissions de CO2 de toutes nos industries, de toute notre manière de faire de l'économie, de vivre de notre civilisation. Elle est construite sur cette intense énergie nécessitée pour tout et n'importe quoi. Par contre, c'est quand même un discours qui émerge, entre autres un président Macron qui, il y a quelques mois, à La Hague, va prononcer en face des industriels le nucléaire. Le nucléaire va sauver le climat. Est-ce qu'on peut aujourd'hui réellement faire un bilan de la problématique énergétique sur le nucléaire, puisqu'en fait la technologie n'a jamais pu être pensée jusqu'au bout et que nous nous retrouvons avec les déchets à gérer?
Cette histoire de nucléaire et le climat, c'est stupide pour plusieurs raisons. La première, c'est que le nucléaire civil ne fait que la production d'électricité. Bon. Or, au niveau mondial, le nucléaire ne représente que 10% de la production d'électricité. Et du point de vue de l'effet sur le climat, si j'arrêtais le nucléaire au monde demain, les émissions de gaz à effet de serre augmenteraient de 2%. Donc il faudrait pour arriver par exemple à 10%, il faudrait multiplier le nucléaire par 10, par 5. Ça n'a aucun sens, d'autant plus qu'au niveau mondial, le nucléaire, comme je l'ai dit, c'est 10%. Il y a 20 ans, c'était 18%. Donc le nucléaire, en fait, baisse au niveau mondial. Et il baisse pour des raisons de sûreté, des raisons techniques et des raisons de coût. Le nucléaire est très cher. Beaucoup plus cher que l'éolien et le photovoltaïque. Donc l'Allemagne a fait le bon choix. Et il ne faut surtout pas qu'elle revienne en arrière parce que ça n'a pas de sens.
Ça paraît pas trop probable.
Non, mais ça n'a pas de sens, tu vois, donc ça ne sert à rien. Il faudrait en faire beaucoup, ce qui n'est pas possible. Et même si c'est vrai que le nucléaire émet moins de gaz à effet de serre des autres, il produit au moins les déchets radioactifs. Donc on ne peut pas dire que le nucléaire est bon On peut dire, ben, bon, il est pas mal pour le CO2, mais il est très mauvais pour les déchets radioactifs.
Mais surtout, les déchets, ils vont dans la durée nécessiter un coût énergétique incroyable, puisqu'il va falloir creuser ces galeries, il va falloir emballer les fûts avec des métaux précieux.
C'est vrai, mais si on fait le... On peut considérer quand même qu'il émet assez peu de gaz à effet de serre.
Mais est-ce qu'on peut pas le savoir puisque nous n'avons pas terminé avec la technologie? Parce que là, j'avais eu contact avec des gens dans les Vintlandes qui ont dit, en Suède, les scientifiques disent, puisqu'ils pensent que dans le granit, ça va être inondé à long terme, forcément l'eau va rentrer, ils ont besoin de cuivre. Et du coup, ils ont dit, au départ, on va l'emballer avec un peu de cuivre et leur calcul final, c'est 30 cm. Parfum d'épaisseur.
Oui, non, mais ça n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens de prendre le nucléaire pour le climat. Et d'ailleurs, au monde, c'est ce qui se passe. Il y a de moins en moins de nucléaire. Le seul nucléaire qui peut continuer, c'est par la volonté des États. Il n'y a plus aucun investisseur privé qui soutient le nucléaire, c'est les États. Et pourquoi les États? Ben pour des raisons de puissance. Ils sont, en général, pour la France par exemple, c'est ridicule. Quelle puissance ça nous donne d'avoir la bombe atomique et beaucoup de nucléaire. C'est la gloire, ou je ne sais pas quoi. Donc c'est stupide. Et au niveau mondial, moi je pense que le nucléaire va baisser encore. Et que donc... Mais on gardera le problème des déchets. Et là, donc, il faut dire, écoutez, on a des déchets, c'est un fait, on ne peut pas les faire disparaître, même si on arrête le nucléaire. Et donc, on revient à ce que je disais, c'est-à-dire mettre le paquet sur la recherche pour essayer de trouver une solution correcte, quoi.
Beaucoup de personnes sont forcément attachées à des processus démocratiques forts et directs et conséquents. En même temps, je pense que pour la plupart des gens, en fait, la dimension scientifique et technologique de ces industries-là, ça les dépasse. Et du coup, on se plaint en tant qu'opposant au nucléaire qu'un débat public marche pas trop et tout. Là, en fait, ils sont quand même en train de faire ça en Allemagne intensément. Ils veulent, à mon avis, quand même arriver à faire un truc qui est au moins un aspect démocratique fort. Oui, est-ce que c'est cette voie-là qu'il faut prendre ou comment arriver à trouver de bonnes solutions puisque ce sera sur la science qu'il faudra miser?
C'est en partie vrai et en partie faux. Le nucléaire, dès le début, a été quelque chose de non démocratique, ne serait-ce que parce qu'il est issu du militaire. Et donc le militaire, évidemment, est entouré de secrets, et après le nucléaire a été entouré de secrets, et on a dit aux gens, c'est trop compliqué, donc ça ne sert à rien de vous demander votre avis, on sait ce qui est bien. Ce qui est idiot, parce qu'on peut très bien expliquer aux gens, n'importe qui, le nucléaire, c'est pas si compliqué que ça. On constate qu'il y a des fissions, que les fissions, ça fait de la chaleur, et avec cette chaleur, on fait de l'électricité. Donc c'est pas très compliqué. Mais comme il y a ce côté lien avec le militaire, c'est secret. Quant aux alternatives, c'est beaucoup plus facile à expliquer. L'éolien, le photovoltaïque, la géothermie, etc. Donc on peut démocratiquement construire la transition énergétique. C'est très différent.
Aujourd'hui, tous les États misent sur l'enfouissement en profondeur. Quand on suit les débats en Suisse, quand on suit les débats en Allemagne, quand on suit les États, tous les États nucléarisés disent « A, c'est une question nationale, B, il faut que ce soit entre 3 et 500 mètres de profondeur et on va trouver le lieu et il faudra créer une acceptation démocratique sur place. Comment arriver à un revirement sur cet entêtement, sur l'unique et seule solution de l'enfouissement en profondeur ?
Ben, il faut développer ce qu'on fait là. Il faut que les militants anti-nucléaires, en particulier ils ont gagné sur le plan général en Allemagne, ben, il faut qu'ils repartent en disant, écoutez, le stockage géologique, il y a quand même beaucoup de risques, donc prenons une solution d'attente en faisant des entreposages à sec bien protégés, Il ne s'agit pas de mettre des déchets comme ça là, sur la place publique. On fait des lieux bien protégés et on fait la recherche. Et il faut que les gens développent cette idée que la solution n'est pas l'enfouissement. Mais elle est soutenue par les États, par les États et les firmes, parce que c'est la bonne solution du point de vue communication. On s'est débarrassé des déchets. C'est faux. On ne s'est pas débarrassé des déchets, on les a pas réduits, mais on les met sous le tapis. Et si des pays développés comme l'Allemagne ou la France prennent cette solution, tous les autres pays, que ce soit pour des déchets nucléaires ou pour des déchets chimiques, diront, bah écoutez, nous on fait comme la France. La France est formidable, un pays sérieux et tout. Donc on verra dans le monde entier des pays qui font des trous en disant, moi je fais un trou formidable, hein. Un trou très, très bien. Je fais un trou, je fais des galeries, je mets mes déchets chimiques ou nucléaires dans des conteneurs de très bonne qualité et je referme. Qui va vérifier ? Qui va vérifier ? Supposons que le projet français soit bon, mais qui va vérifier que le projet de je ne sais pas quel pays est bon ? C'est une responsabilité nationale. L'État dira, mais vous savez, mon projet, à moi, il est formidable. Et donc, autour de 200 ou 300 ans, vous aurez des trous dans la croûte terrestre, à différents endroits du monde, avec des saloperies au fond, soit radioactives, soit chimiques, et le sous-sol, la croûte terrestre, c'est l'eau. C'est l'eau qui circule. Et donc, vous aurez... petit à petit, les gens s'apercevront que là où ils sont, l'eau est radioactive. Et ils ne pourront rien faire. Rien faire. Et donc moi je pense, et ça c'est une idée intéressante, je peux que de la même façon qu'il y a un traité international qui interdit l'immersion des déchets dans les fonds marins, qui avait été une solution prise à une époque. Je pense qu'il faut développer l'idée d'un traité international interdisant l'enfouissement de déchets chimiques et nucléaires dans la croûte terrestre. Basta. Traité international. Et donc il faut que les juristes des différents pays qui sont liés au milieu antinucléaire obtiennent ça. C'est une idée à lancer. Alors, il faut la lancer en Allemagne parce que sur ces plans-là, vous êtes beaucoup plus démocratique que nous, ça c'est clair. Mais il y aurait des réunions de juristes internationaux, mais à partir de l'Allemagne et au niveau européen, par exemple, pour préparer ce traité international, moi, je pense que ça serait vachement bien. Tu vois, interdiction des déchets chimiques et nucléaires dans la croûte terrestre. Point. C'est très court. Article 1. Alors que ça existe pour l'enfouissement marin. Et il a fallu qu'il le fasse quand on s'aperçoit que c'est un désastre. Et après, il y a eu le traité international. Donc il faut obtenir ce traité international, interdiction dans la croûte terrestre, point. C'est une bonne idée.
Ça m'a l'air d'être une très bonne idée.
Voilà.
Bon, je te remercie beaucoup.
Donc essaye de lancer ça en Allemagne. Et si c'est un traité international, c'est bien, parce qu'après tu peux... Du coup tu dis, ben attendez, votre projet, c'est interdit par le traité international, donc on n'en parle plus. Et ça ne veut pas dire de ne pas chercher d'autres solutions. Mais les mettre dans la croûte terrestre, je te dis, pour moi cet argument de la reproductibilité par d'autres pays, c'est fondamental. Parce que je suis sûr que ça se passera comme ça. Et qu'on ne pourra rien faire. Même la France, l'Allemagne, il ne va pas aller dire, je ne sais pas moi, à l'Ukraine ou au Burkina Faso, qu'eux, ils n'ont pas le droit de faire un truc souterrain. Hein? Donc ça devient un problème mondial et donc il faut agir par le droit international, très fort. Là, on a vu que le droit, ça peut servir, mais il faut le faire sur le plan international. Voilà, je vous vends cette idée, cher ami.
Nous sommes toutes des malfaiteurs.
Nous sommes toutes des malfaiteurs.
Nous sommes toutes des malfaiteurs.